أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation au degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid din, qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et on rappelle l'importance de mettre la bonne intention uniquement par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir les récompenses. Donc le dernier cours, on a vu sur des règles très importantes sur comment préserver son islam, des choses qui l'annulent, donc il y a des paroles, actes, croyances qui annulent l'islam. Donc on a vu les règles, donc à avoir ce cours très important. Et on y reviendra, Inch'Allah, aussi avec certains d'autres détails. Et donc, comme cette semaine, Inch'Allah, il y aura la nuit du 15 Charban. Donc ça sera, Inch'Allah, le 15 Charban, le dimanche 28 mars. Et la nuit, donc ce sera le samedi soir, samedi 27. Donc on va voir, on va parler sur ce sujet, Inch'Allah, des informations importantes à ce sujet. Donc déjà, le 15 Charban, il est recommandé de jeûner ce jour et de faire des prières surérogatoires la nuit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا, qui signifie: lorsque c'est la nuit de la mi-Sha'ban, accomplissez des actes surérogatoires pendant sa nuit et faites le jeûne pendant sa journée. Rapporté par Ibn Majah. Il a dit également: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, ce qui signifie: la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière surérogatoire effectuée de nuit. Rapporté par Muslim. Bien sûr, on rappelle que celui qui a des rattrapages, il faut rattraper d'abord les prières obligatoires, car le rattrapage est une obligation. Donc, il est obligatoire et prioritaire sur ce qui est surérogatoire. Car rattraper les prières, c'est une obligation. Donc, pour le repentir, c'est une obligation. Et on rappelle aussi, comme on a déjà mis en garde contre la secte extrémiste wahhabite, donc il est important, on y reviendra à chaque fois quand il y a des sujets à citer, notamment ce sujet-là. À savoir que parmi les aberrations de la secte extrémiste wahhabite, ils vont renier des actes de bien qu'on fait chez les sunnites, en prétendant bid'a, innovation, alors que eux, ce qu'ils font, c'est des innovations interdites, d'interdire ce qui n'est pas interdit, et leur pire des innovations, c'est assimiler Dieu à ses créatures. comme on l'a déjà montré. Donc pour l'Isra al-Mi'raj, pour Jumu'ah Mubaraka, pour ça, jeûner, ils vont dire non, c'est hadith faible et ceci et cela. Alors que chez les sunnites, chez les savants, même un hadith faible, qui n'est pas hadith mensonger, on peut œuvrer conformément à ce hadith pour les actes de bien. Ça, c'est connu chez les savants du hadith. Et jeûner, c'est un acte de bien. Et faire des prières la nuit, c'est un acte de bien. Donc en fait, eux, ils suivent le shaitan en interdisant ce qui n'est pas interdit. Donc, il y a ce hadith-là, comme on l'a dit. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Rapporté par Ibn Majah, lorsque c'est la nuit de la mi-Sha'ban, accomplissez des actes surérogatoires pendant sa nuit et faites le jeûne pendant sa journée. Donc on ne prête pas attention à cette secte-là. Donc il ne faut pas suivre aveuglément, comme il a dit. Un compagnon, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc on suit les preuves et non pas les personnes aveuglément. Donc la nuit de la mi-Charban est une nuit bénie. Parmi les meilleures choses que puisse faire la personne durant cette nuit, c'est de veiller sa nuit, de jeûner la journée. La journée qui suit. Et de faire preuve de piété à l'égard de Allah durant cette nuit. La piété à l'égard de Allah signifie accomplir les devoirs, éviter les interdits. Il convient à la personne durant cette nuit, tout comme il lui convient à tout moment, de se rappeler que la mort arrive sans aucun doute. Et que les gens vont être rassemblés et ressuscités, interrogés, et que leurs actes leur seront exposés. Alors celui qui a cru et fait preuve de piété aura réussi, et celui qui a mécru et fait preuve d'injustice aura perdu. Ainsi, la personne doit s'occuper convenablement de son approvisionnement pour l'au-delà. Avec sérieux et application. La mort arrive et elle est proche, alors à toi de t'approvisionner pour l'au-delà à partir de ce bas monde avec sérieux. Il nous est parvenu à ce sujet la parole de Allah Ta'ala, Wala tansa nasibaka min ad-dunya, qui signifie n'oublie pas ta part de ton bas monde pour ton au-delà, car c'est dans cette vie. Donc, tu sèmes pour récolter. Pas après la mort. Après la mort, c'est trop tard. Ainsi, celui qui s'approvisionne pour son au-delà à partir de ce bas monde fait vraiment partie de ceux qui s'approvisionnent. Et celui qui rate son approvisionnement pour l'au-delà à partir de ce bas monde l'aura manqué parce qu'il n'y aura plus d'approvisionnement après la mort. Il est également indispensable de rappeler ici que la recherche de la science de la religion est un devoir pour chaque musulman. Donc en parlant bien sûr du minimum indispensable de la religion, car ce n'est pas un devoir sur chacun d'être un savant, mais c'est un devoir d'ordre communautaire. Mais ce qui est un devoir sur chacun d'apprendre le minimum indispensable de la religion concernant la croyance, la pratique. Et cela s'apprend par chaîne de transmission auprès des gens de confiance. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman, rapporté par Al-Bayhaqi, c'est-à-dire la science de la religion indispensable. Donc on l'a expliqué. Donc attention aux hadiths mensongers concernant Charban. Donc il y a des hadiths mensongers. Bien sûr, comme on l'a dit au début, les hadiths qui ont une faible chaîne de transmission on ne les utilise pas dans les obligations et la croyance, mais dans les choses, donc fada'il, on appelle ça, les choses de bien, les actes de bien, comme jeûner. Mais les hadiths mensongers, là, bien sûr, on ne les utilise pas. Donc voilà la règle du juste milieu dans la religion. Mais on ne va pas empêcher un bien juste parce qu'il y a un hadith faible. Donc, bien sûr, c'est qui décrète hadith sahih faible? C'est pas comme font les wahhabites à utiliser des logiciels où avant c'était illisé. Ils passaient des nuits à lire des livres comme ça. Maintenant avec des logiciels. Donc la religion, c'est pas comme ça. Donc la religion, c'est par chaîne de transmission. Il faut avoir une chaîne de transmission dans le hadith. Donc comme on l'a dit, dans la religion, il faut avoir une chaîne de transmission pour. Donc, et bien sûr, c'est un niveau de savant de hadith, de la science du hadith, pour décréter ou donc savoir que ce hadith est sahih ou non. Ce n'est pas simplement à lire ou utiliser un logiciel. Ou chercher sur Google. Donc voilà comment donc sont les règles de la religion. Ce n'est pas aux avis des gens, les avis personnels qui vont décréter que ce hadith est faible ou non, ou que cette information est fiable ou non. Il faut une chaîne de transmission auprès de gens de confiance. Donc, par exemple, là, concrètement, il y a des hadiths mensongers. Donc, par ailleurs, les hadiths suivants sont mensongers. Donc, ce qu'ils prétendent en disant Rajab est le mois de Allah, Sha'ban, c'est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. Donc, ça, c'est un hadith mensonger. Et le hadith qui prétend Rajab, c'est le mois de la demande de pardon, Sha'ban, c'est le mois de la prière et de l'invocation en faveur du prophète. Et Ramadan, c'est le mois du Coran, alors appliquez-vous, que Allah vous fasse miséricorde. Et le hadith, le premier à informer des nouvelles du mois de Sha'ban, le feu de l'enfer lui sera interdit. Ces trois hadiths n'ont aucun fondement. Le prophète Mohammed n'a jamais tenu ces propos. En revanche, le prophète a dit ce qui signifie, celui qui ment à mon sujet délibérément, qu'il se prépare pour l'endroit qu'il occupera en enfer. Donc voilà, donc faire attention. Les gens ils transfèrent comme ça, sans faire attention. Donc, quant à la récitation de Sourate Yassine durant cette nuit, elle comporte une récompense, tout comme pendant le reste des jours et des nuits. Seulement, il n'a pas été rapporté du messager de Allah qu'il est recommandé de la réciter pendant cette nuit en particulier, spécifiquement. Donc voilà, la religion, c'est précis. Donc comme on l'a montré, là, on peut réciter Sourate Yassine, mais il n'y a pas un hadith qui dit de la réciter spécifiquement durant cette nuit. Donc réviser un cours de science, les cours de sciences islamiques. Donc on a eu de gens de confiance. Donc on rappelle qu'il est important. Peu de choses vérifiées vaut mieux que beaucoup, beaucoup. Donc non vérifiées, non valides, non validées. Donc attachez-vous à suivre donc ce que vous avez eu par chaîne de transmission auprès des gens de confiance. C'est pas chercher des nuits sur YouTube ou sur Google. N'importe qui peut mettre n'importe quoi sur YouTube, sur Google. C'est ouvert à tout le monde. Il convient aussi de ne pas croire que c'est au sujet de cette nuit que Allah Ta'ala dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Il Il convient aussi de ne pas croire que c'est au sujet de cette nuit que Allah dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim, qui signifie c'est pendant cette nuit que sont partagées toutes tes destinées sages. Sourate Ad-Dukhan, ayah 4. Même si certains gens du commun se sont passés le mot qu'il s'agirait de la nuit de la Mi-Charban, car cela n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit de la nuit de Al-Qadr. Donc, il y a le cours sur la nuit de Al-Qadr. Et on y reviendra, Inch'Allah. Et la signification de Fiha yufraqu kullu amrin hakim, c'est que Allah donne la connaissance à ses anges durant cette nuit-là, la nuit de Al-Qadr, sur les détails de ce qui va avoir lieu depuis cette nuit, Laylat al-Qadr, jusqu'à la nuit de Al-Qadr de l'année suivante. On fait de mort, de vie, de naissance, de subsistance. Et ce qui est du même ordre. Donc la ayah de Sourate Ad-Dukhan concerne bien la nuit de Al-Qadr, qui est elle la meilleure nuit, qui n'a lieu que pendant Ramadan. Dieu fait changer les créatures et lui ne change pas. Donc ça, c'est parmi les fondements de la croyance musulmane. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Celui qui change est créé, a besoin de qui le fait changer. Donc, attribuer à Dieu le changement, c'est un blasphème, c'est du shirk. Allah Ta'ala dit, donc c'est l'explication d'un verset ici, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Sourate Ar-Rahman, ayat 29. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette ayah en disant Yaghfiru dhanban wa yakshifu karban wa yarfa'u qawman wa yada'u akharin. En fait, il change dans sa création. Donc il signifie le hadith, il pardonne un péché, il élève une épreuve, il élève un peuple, il lève une épreuve, il élève un peuple. Il en rabaisse d'autres. Ainsi, Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Ceci est en accord avec la parole des musulmans qui disent Subhanallah yughayyir wa la yataghayyar, qui signifie il est exempt de toute imperfection, il est exempté de toute imperfection, celui qui fait changer alors que lui. Il ne change pas. Ce sont de belles paroles parce que le changement advient aux créatures et non pas à Allah ni à ses attributs. Dieu ne change pas et ses attributs ne changent pas. Ainsi, attribuer à Dieu le changement est de la mécréance qui fait sortir de l'islam, bien sûr. Les créatures changent, c'est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Le fait que les créatures passent un état s'anéantit et un état entre en existence, il leur advient des choses qui entrent en existence, donc elles ont besoin de qui les fait changer. Et celui qui les fait changer, lui, ne change pas, il ne dépend pas du temps, il existe avant l'espace, le temps. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Attribuer à Dieu le changement est de la mécréance. Donc Dieu, il sait toutes choses, il n'apprend rien, sa volonté ne change pas, sa science ne change pas, tous ses attributs ne changent pas, n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ils ne changent pas. Allah Ta'ala dit: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ce qui signifie, lorsque mes esclaves t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis celui qui sait tout d'eux et qui les préserve. J'accorde des bienfaits à celui qui m'invoque quand il m'invoque, alors qu'ils m'obéissent et qu'ils croient en moi, puissent-ils être bien guidés. Sourate Al-Baqarah, ayah 186. Ainsi, si quelqu'un invoque Dieu et qu'il est exaucé, cela veut dire que Dieu a prédestiné qu'un tel lui arrivera telle épreuve et qu'ensuite, à tel moment, il invoque Dieu et que Dieu lui accorde tel soulagement. Ou ne lui accorde pas. Car Dieu n'est pas obligé d'accorder. Comme on va voir avec même un hadith. Ça, c'est la règle qu'on a dit plusieurs fois. Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux. Mais ici, pour montrer, si quelqu'un il a invoqué et il a été exaucé, ça veut dire Dieu a prédestiné que telle personne, il aura telle épreuve et qu'il va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre telle invocation et qui va la faire à tel moment et qu'il aura tel soulagement. Ainsi, Dieu est le créateur de nos actes, nos pensées, notre volonté et de toutes choses. Chaque instant est créé et voulu par Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Croire en la prédestination fait partie des fondements de la foi. Celui qui croit que Dieu lui-même change n'est pas musulman. Car celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui change, cela veut dire qu'il est créé. Ainsi, celui qui croyait que Dieu change doit délaisser cette croyance et revenir à l'islam en délaissant cette mauvaise croyance et en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Donc les invocations ne changent pas ce que Dieu t'a prédestiné, mais elles font partie de ce que Dieu t'a prédestiné. Donc c'est ça, donc la croyance de base. Donc il y a certains hadiths qui parlent de l'invocation, et ces hadiths-là ne veulent pas dire que l'invocation change ce que Dieu t'a prédestiné. Mais les savants, ils ont expliqué ce genre de hadith que c'est noté, par exemple, dans la table préservée, que si un tel y fait tel bien, il maintient les liens avec les proches familles, il va vivre tant, il évitera telle épreuve, s'il fait tel péché, il ne fait pas, il ne maintient pas le lien avec les proches familles, sans excuse, donc il tombe dans les grands péchés, etc. Il va vivre moins, ou il aura telle épreuve. Ça, c'est écrit dans la table préservée. Donc, bien sûr, c'est écrit que la personne, est-ce qu'elle va faire ça ou ça? Tout ça, c'est écrit. Et Dieu, bien sûr, il sait tout avant que le monde existe, avant la création de la table préservée, il sait toute chose, sa science ne dépend pas du temps. Et donc, est-ce qu'il va faire ça ou ça? C'est déjà écrit aussi. Et Dieu sait tout avant que cela n'arrive. Mais les anges, par exemple, ils vont noter chez eux ce qui est conditionné. S'il fait ça, il aura ça. S'il ne fait pas ça, il n'aura pas ça. Mais dans la table préservée, c'est marqué tout. Il va faire ça ou ça, etc. Donc l'invocation fait partie du destin. Bien sûr, car tout est créé par Dieu. Donc croire le contraire, c'est contraire à la croyance musulmane, bien sûr. Parmi les choses contre lesquels il convient de mettre en garde, il y a une invocation que certaines personnes se sont habituées à répéter durant cette nuit. Ils disent: Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummi al-kitab mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bi fadlika shaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi. Donc cette invocation elle est fausse. Certains l'attribuent en fait à Omar ibn Mas'ud ou Mujahid, l'élève de Ibn Abbas, mais cela, ça n'a pas de chaîne de transmission confirmée. Donc certains y prétendent les rapporter de Omar ibn Mas'ud et Mujahid, mais cela n'a pas été confirmé. Donc, bien sûr, donc ici, ils prétendent demander, en fait, si je suis inscrit dans la table préservée, que donc j'aurai une faible subsistance, et que je ne suis pas dans le droit chemin, et que je suis privé du bien, change-moi cela. Ça, il y a des invocations, on ne peut pas dire. On ne peut pas demander à Dieu, par exemple, guide Satan. On ne peut pas, parce que si Dieu nous a informé. Donc, dans plusieurs textes du Coran, du Hadith, etc., qu'il est, que Iblis il va aller en enfer. Donc, on ne peut pas contredire ça. Donc, il y a des doigts qui ne peuvent pas. Quand ça contredit ou ça attribue à Dieu le changement de volonté, c'est interdit, c'est de la mécréance. Donc en effet, celui qui croit que Allah change sa volonté par l'invocation de quelqu'un qui invoque, sa croyance a été corrompue, parce que la volonté de Allah est éternelle, exempte des débuts et exempte de fin. Il n'advient à la volonté de Allah ni changement ni modification, ni à aucun de ses attributs, ni à sa science, ni à sa puissance, ni à sa prédestination. Ainsi, il n'est pas permis à l'homme de croire qu'il pourrait advenir à Allah de vouloir une chose qu'il ne voulait pas de toute éternité. Tout comme il n'est pas permis de dire qu'il lui advient la connaissance d'une chose qu'il ne savait pas de toute éternité. Ainsi, la volonté de Allah ne change pas par l'invocation de quelqu'un qui invoque, ou par l'aumône de quelqu'un qui donne une aumône, ou par le vœu de celui qui fait le vœu. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna al-nadhra la yaruddu min qadarillah, wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Qui signifie: le vœu n'empêche pas la destinée de Allah. Seulement, c'est par le vœu que l'avare donne, rapporté par Muslim. Donc, ça veut dire le vœu, le fait de faire un vœu, de faire telle aumône, donc ça se fait oralement, ça incite celui qui est avare à donner, car quand on fait le vœu, ça devient obligatoire. Une chose recommandée, si on fait le vœu de la faire, par la parole, pour Dieu, elle devient obligatoire. Donc, comme il l'a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, ça ne change pas et n'empêche pas la destinée de Allah. La chose dont Allah sait et veut l'existence de toute éternité, il est indispensable qu'elle soit, et cela ne change pas. La chose qu'il sait qu'elle n'aura pas lieu, n'entrera pas en existence. Donc ça, on l'a vu dans le cours sur la prédestination. Quant à la parole de Allah Ta'ala, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Elle signifie que Allah Ta'ala efface ce qu'il veut du Coran et l'abroge, Et il confirme ce qu'il veut à partir du Coran, il ne l'abroge pas. Et ceci est marqué dans la table préservée. Sourate Ar-Ra'd, ayah 39. Parce que pendant la vie du prophète, bien sûr, il y avait certains versets ont été révélés pour un certain temps, ensuite ont été abrogés. Donc il y a une sagesse en cela. Et bien sûr, Dieu sait tout. Et Dieu ne change pas. Il sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Donc voilà pour l'explication de ce verset en fait. Le verset ne veut pas dire que Dieu change ce qu'il t'a prédestiné. Et c'est interdit de dire, de demander à Dieu de changer ce qu'il t'a prédestiné à toi. Car cela comporte une croyance de shirk, de mécréance. Car celui qui change, c'est forcément une créature. Donc sur ces sujets-là, clairs et catégoriques, il n'y a pas d'excuse. Si la personne s'est trompée, en fait, elle n'était pas sur la croyance, donc il faut vraiment qu'elle délaisse cette mauvaise croyance, elle entre pour de vrai dans l'islam, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Parmi les preuves dans le hadith que la volonté de Allah ne change pas par l'invocation, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Donc, il signifie, j'ai demandé à mon Seigneur quatre choses. Il m'en a accordé trois et il ne m'en a pas exaucé une. Je lui ai demandé de faire que ma communauté ne soit pas dans sa totalité non-croyante, mais créante. Il me l'a accordé. Et donc ça, c'est une preuve qu'il y aura toujours des musulmans, alhamdoulillah. Elle ne s'égare pas dans sa totalité. La communauté du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est parmi nombreuses preuves. Contrairement à ce que disent les sectes extrémistes, notamment le wahhabisme et les sectes extrémistes, ceux qui ont commencé à faire les attentats en Égypte, etc., dont on a parlé, on y reviendra, inshallah. Mais à chaque occasion, on montre ces preuves-là, parce que ces sectes-là, ils ont beaucoup de moyens financiers, ils sont aidés par les Occidentaux, etc., pour égarer les gens et égarer les gens notamment dans les pays musulmans, et faire d'autres mal aussi, beaucoup de maux, égorgeant les musulmans, tuant, etc., comme on le sait. Et parmi leurs aberrations, c'est que les wahhabites, ils disent, à un moment, il y avait plus de musulmans. Tout le monde était égaré, il n'y a que le fondateur de leur secte qui ramenait le tawhid, et que tous les musulmans étaient des égarés, des mécréants, des mouchrikines, et que lui, il a ramené le tawhid. Mais les savants, ils ont dit, mais de qui il a appris alors? De soi-disant des mouchrikines, il a appris lui. Donc presque, ils vont dire que c'est un prophète en fait. Et aussi le fondateur de l'autre secte, que lui c'est un franc-maçon, et il le dit clairement. Il y a les écrits où il dit pourquoi je suis devenu franc-maçon. Donc alors lui, c'est le fondateur de cette secte-là, de ceux qui faisaient les attentats en Égypte, il s'appelle Saïd Qutb. Lui il travaillait pour les services de renseignement anglais et américains, etc. Lui dans son livre, clairement, il dit que tous les humains sont mécréants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de musulmans. Même ceux qui disent, ceux qui font l'adhan, qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Donc il a déclaré tous les musulmans mécréants et c'est pour cela qu'ils ont commencé à tuer, à faire des attentats, etc. Donc voilà, ça c'est l'idéologie de Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Sayyid Qutb. Donc voilà le hadith, le prophète il a fait une invocation que sa communauté ne s'égare pas dans sa totalité. Et que Dieu lui a exaucé. Et il est rapporté par plusieurs versions, ce hadith. Donc vous voyez, dans un hadith, on peut tirer beaucoup de preuves. Donc on ne peut pas expliquer une chose en contredisant notre hadith. C'est pour ça qu'ils font un savant. Parce que les paroles du prophète ne se contredisent pas. Et ne se contredisent pas avec le Coran, et comme les versets aussi ne se contredisent pas, donc on a vu ça dans les cours précédents. Donc voilà la preuve claire qu'il y a toujours des musulmans, même si la plupart, ils ne sont pas des pieux. Très très peu, la plupart ne sont pas pieux. C'est très, très peu les pieux qui accomplissent tous les devoirs, qui évitent tous les interdits. Mais ils ont la bonne croyance. De toute façon, si on n'a pas la bonne croyance, on n'est pas dans la catégorie de musulmans. Donc ça ne peut pas être valable. On ne peut pas dire un musulman qui n'a pas qui n'a pas la bonne croyance. C'est contradictoire. Et d'ailleurs, faire attention. Donc ça revient à un chapitre qu'on a cité. Faire attention, quelqu'un qui est égaré, on ne peut pas l'appeler musulman. On ne peut pas l'appeler un savant musulman alors qu'il est égaré. Donc faire attention. Les savants, ils disent ça. Celui qui sait qu'un tel, il dit la telle mécréance, il l'appelle savant de l'islam ou savant musulman, il sort de l'islam. Ça, c'est parmi les choses qui annulent l'islam. Et ça, les savants, ils ont cité cela. Donc celui qui déclare mécréant tous les musulmans, on ne va pas l'appeler musulman ou ça, son groupe, on n'appelle pas musulman. On dit, ils se prétendent musulmans, ils se prétendent des gens du salaf, etc. Mais on ne va pas les appeler des noms qui montrent qu'ils seraient des musulmans. Ça, c'est interdit. Car eux, ils déclarent mécréant tous les musulmans. C'est contraire au hadith. Voilà, il dit bien, il me l'a accordé. Je lui ai demandé de ne pas les faire périr par ce par quoi il a fait périr les communautés avant eux. Il me l'a accordé, ne périssent pas tous, comme c'est arrivé au peuple de Nouh. Je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas un ennemi étranger à eux qui prenne le dessus sur eux tous et les déracine. Il me l'a accordé. Donc tout ça déjà, ça montre que il y a toujours des musulmans au final. Donc c'est vraiment insister, appuyer avec toutes ces demandes que le prophète il a fait et que Dieu lui a accordé. Et il a dit, je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, mais il ne l'a pas exaucé. Voilà, donc là, il ne l'a pas exaucé. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres entre les musulmans. Donc, commençons par Mouawiya qui voulait le pouvoir, qui a fait la guerre au calife, le quatrième calife, désigné par les musulmans. Désigné par les musulmans de haut niveau, il a fait la guerre, ce qui est un grand péché dans l'islam, faire la guerre pour le pouvoir, et c'est un grand péché déjà. Et c'était la cause de beaucoup de compagnons, ils sont morts à cause de quelqu'un qui voulait le pouvoir. Malheureusement. Donc dans l'islam, chaque chose est précise. On ne dit pas Donc les savants, ils ont cité ça, ils ont dit celui qui a fait la guerre contre le calife bien guidé, il est dans le péché, ils l'ont cité, les quatre écoles, etc. Donc on ne peut pas jouer sur les sujets religieux avec les sentiments. Chaque chose est, donc elle a un détail précis dans la religion. Il n'y a que le prophète qui se trompe pas sur les sujets religieux, mais quelqu'un, il peut se tromper, même si c'est un compagnon. Donc, rapporté par le Hafiz Abdurrahman ibn Abi Hatim d'après Abu Huraira. Muslim a rapporté ce hadith d'après Thawban, d'après le messager de Allah. Sa'altu Rabbi thalathan. فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. Donc, il y a une autre version qui signifie: j'ai demandé à mon Seigneur trois choses, il m'a accordé deux, il m'en a refusé une. Et pareil, celle que lui a accordée, toujours c'est sur le sujet que sa communauté ne s'égare pas dans sa totalité et que il n'y a pas. Qui ne périsse pas dans sa totalité. Donc, dans toutes les versions, Dieu lui a accordé ces deux points-là, ces deux demandes. Donc, ces deux sujets qui montrent clairement qu'il y a toujours des musulmans. Ce n'est pas tous ces égarés et un gourou, il a ramené, soi-disant, l'islam, alors que tous ils étaient égarés, soi-disant. Et ça, c'est l'idéologie même de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de Sayyid Qutb. Et c'est les deux sectes qui sont derrière Daesh, Qaïda, Boko Haram, et financés par on sait qui, bien sûr, ceux qui ils prennent le pétrole derrière, etc. Donc, et dans une autre version, il est cité Qala li ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an, fa innahu la yurad. Qui signifie, il m'a dit, ô Muhammad, ce que je prédestine ne sera pas changé. Donc, ça montre ici la preuve de ce qu'on a dit, que Dieu ne change pas. Et la raison, bien sûr, confirme catégoriquement cela. Celui qui change a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Donc, il y a un doua. Alors, mieux que le doua cité précédemment, qui comprend ces mauvaises paroles, celui qu'on a cité tout à l'heure, qui prétendent soi-disant que Dieu leur change ce qui est écrit pour eux comme subsistance faible, comme égarement, des choses comme ça c'est faux, on ne peut pas dire ça. Mais on peut demander à Dieu le bien, etc. Comme ça, oui. Mais on ne peut pas dire. Si tu m'as prédestiné ou tu m'as écrit dans la table préservée, égaré, ayant peu de subsistance, change-moi ça. Ça, on ne dit pas ça. Mais on demande le bien, donne-moi de la, accorde-moi beaucoup de subsistance, maintiens-moi sur la bonne guidée. Donc il y a beaucoup de doigts sur ce sujet. Maintiens. Fait que notre cœur donc se maintient sur le droit chemin. Donc il y a cette invocation, même si elle n'a pas été rapportée du messager de Allah, mais qui est conforme à l'origine, à l'enseignement. Parce que pour l'islam, on peut dire les invocations rapportées par le prophète, mais on peut dire d'autres invocations. Quelqu'un peut demander d'avoir une facilité dans telle. Vie dans tel projet dans cette vie. Donc ça, comme il est long, donc on l'utilisera donc pour la prononciation dans la deuxième partie du cours, inshallah, dans la prononciation. Donc on y reviendra pour la prononciation avec le cours de tajwid et langue arabe. Une remarque, donc si le jour de la mi-Charban arrive un vendredi, c'est déjà arrivé, bon là c'est un dimanche, Donc, parce qu'à l'origine, jeûner le vendredi tout seul, c'est déconseillé. Mais on va voir ici que même si ça arrive un vendredi, comme c'est déjà arrivé, c'est pas déconseillé parce qu'il y a une raison. Donc, jeûner le vendredi tout seul, sans raison, c'est déconseillé. Donc, les savants sunnites ont dit, si le jour de la Misha'ben arrive un vendredi, il n'est pas déconseillé de jeûner uniquement ce jour-là, pour la personne qui a l'habitude de le jeûner. Quant à la personne qui n'a pas l'habitude de le jeûner, il n'est pas non plus déconseillé de jeûner uniquement ce jour-là, car le jeûne à l'origine est une obéissance à Dieu qui nous est demandé de faire. Et ce qui est rapporté à propos de l'incitation à ne pas jeûner uniquement le vendredi, elle est restreinte par l'incitation à jeûner le jour de la Misharban. Donc il y a une raison au final. Et il a été dit, à notre avis, qu'il est déconseillé de jeûner uniquement ce jour-là par précaution. C'est-à-dire, il y a un autre avis qui dit on rajoute un autre jour. Parmi ceux qui ont mentionné explicitement le premier avis, il y a Ibn Qasim et d'autres que lui parmi les Shafi'i. Donc au final, on peut jeûner même si ça arrive un vendredi. Donc voilà comme on a dit, attribuer à Dieu le changement, on l'a vu. C'est de la mécréance. On ne peut pas demander des choses contraires à la religion. Donc on ne peut pas demander une invocation dans laquelle on attribue à Dieu le changement de volonté. Ça, c'est du shirk. C'est contraire à la croyance, au fondement de l'islam. Et comme on l'a vu dans le cours sur les versets explicites et les versets non explicites et les hadiths aussi, pareil, certains hadiths, ils ont été cités. Pour l'invocation, comme la yaruddu al-qadar à shay illa al-du'a, ici, ne veut pas dire que l'invocation change ce que Dieu t'a prédestiné, non. Ça a le sens que l'invocation peut te préserver, donc, des épreuves qui arrivent aux gens. Mais pas ce qui est prédestiné pour toi spécifiquement. Comme dans Al-Qunut. Donc, dans Sobh, on dit Waqina. Ici, ne veut pas dire préserve-nous de ce que tu nous as prédestiné. C'est pas ça. Mais préserve-nous des épreuves que tu as prédestinées à certains gens. Donc préserve-nous des épreuves que tu as prédestinées à certaines personnes. Mais ce que Dieu nous a prédestiné à nous, on ne peut pas demander qu'il soit changé. Mais nous, on ne sait pas ce que Dieu nous a prédestiné. Donc, on demande de manière générale, demande le bien, le fait de persévérer sur le bon chemin, etc. Comme on peut enseigner même, comme le prophète l'a fait, à un non-musulman qu'il invoque par la guider. Mais on ne peut pas lui enseigner de demander le pardon. Parce qu'il n'est pas musulman. Dieu ne pardonne pas celui qui n'est pas musulman tant qu'il ne se convertit pas. Pour qu'il soit pardonné, il faut se convertir par les deux témoignages. Mais on peut lui dire, demande à Dieu de la guider. Comme le prophète, alayhi salam, il a fait avec quelqu'un. Il ne s'est pas converti, mais il a demandé un doigt. Donc, et le prophète lui a enseigné de dire, donc de demander à Dieu la préservation contre le mal de son âme et de le guider vers le mieux. Et après, il s'est converti. Là, il lui a enseigné le même doigt. Il lui a rajouté la demande de pardon, qu'après qu'il s'est converti. Donc, de même, on demande le bien dans le bas monde, dans l'au-delà, on peut demander sans aucun problème. Mais ça, il n'y a pas de problème à cela. Mais on ne peut pas dire, si tu m'as prédestiné, alors change que tu m'as prédestiné, ça c'est interdit. Tout comme on ne peut pas dire, Dieu fait rentrer Iblis au paradis. Car Dieu nous a informé qu'il ne va pas rentrer au paradis. Donc voilà, donc le détail très important. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc on a dit qu'il est recommandé de jeûner, donc de mettre l'intention de jeûner la veille. Si quelqu'un il a un rattrapage, le rattrapage est prioritaire. Il rattrape. Donc c'est plus important le rattrapage. L'obligatoire est supérieur au surrogatoire. Et on rappelle l'importance de s'arrêter avant donc avant l'entrée du Fajr. Donc l'application, donc les temps. On a vérifié dans plusieurs endroits. On incite les gens à vérifier, à observer. Donc ça, surtout le Fajr, ça nécessite des conditions, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, qu'il n'y a pas de nuages, qu'il n'y a pas la pleine lune pour voir le Fajr dès le début. Donc si on réunit ces conditions, la personne l'observe. Sinon, bah, elle s'arrête au temps indiqué dans l'application. Il faut bien se localiser ou mettre son adresse pour avoir le temps de. Et on s'arrête par précaution à ce temps-là. Et pour faire la prière, on attend un temps de précaution. Donc déjà, il y a 5 minutes de précaution qui ont été rajoutées pour chaque prière. Et la personne rajoute donc selon ce qu'elle a observé. Il faut l'observation, c'est important. Donc voilà, l'application elle vous donne, c'est l'IMSEC, ça s'appelle. Donc c'est le IMSEC. Donc là, par exemple, on va mettre Paris 18e. Le Fajr, donc 5h07, donc il y a 5 minutes de précaution. Donc il y a l'application, la version en ligne, donc salat.islam.ms, et bien sûr il y a donc la version avec sur Android et iPhone. Donc il y a 5 minutes de précaution qui ont été rajoutées déjà. Et l'angle du Fajr c'est bien 18. C'est ce que t'es vérifié dans plusieurs endroits, dans la plupart des pays musulmans. De toute façon, il faut l'observation visuelle, bien sûr. Donc 5h07, donc ça veut dire il y a 5 minutes de précaution. Donc le temps de calcul serait 5h02. Avant cela, on a fait 15 minutes de précaution. Donc la personne s'arrêtait 4h47. Par précaution. Si quelqu'un il est donc dans ce secteur-là. Sinon, il faut mettre l'adresse ou se localiser. Donc sur le téléphone. Jusqu'au Maghreb, bien sûr. Le Maghreb. Voilà. Donc il y a 5 minutes de précaution aussi. Si quelqu'un, il a vu de ses yeux, comme certains, ils ont vu, que 5 minutes déjà, il est rentré. 5 minutes avant. Donc ils peuvent enlever la précaution dans l'application, que ce soit Android ou iPhone ou ici. La version en ligne, ça, On peut faire l'adhan sur en ouvrant donc un onglet dans le navigateur et on peut avoir l'adhan sur l'ordinateur en fait. En activant ici l'adhan on. Donc voilà. Si quelqu'un l'a observé visuellement de ses yeux, c'est pas simplement il regarde des calendriers, d'autres calendriers, non. Car tous ces calendriers sont faits par donc un algorithme de calcul. Donc l'erreur souvent, c'est qu'ils mettent pas le bon angle ou ils n'expliquent pas aux gens. Par exemple, si tu mets l'angle 12, tu peux faire le fajr, ce sera plus tard, mais tu peux pas t'arrêter juste avant pour le jeûne. Le jeûne, il faut s'arrêter avant 18 pour être sûr. Avant l'angle 18, donc avant les 5h02 ici par exemple, dans notre exemple. Voilà. Donc comme on a expliqué, et on a dit, donc faire attention, ces deux sectes, principalement, ils ont beaucoup de moyens malheureusement, et on a vu ce hadith qui montre que la communauté ne s'égare pas dans sa totalité, contrairement à ce que la doctrine, ces deux sectes-là principales. Donc la secte de Mohammed ibn Abdel Wahhab et la secte de Sayyid Qutb. Tous les sectes terroristes y font partie, ils suivent ces idéologies-là, ces deux idéologies. Donc on reviendra en détail sur le sujet, Inch'Allah. Donc la personne, elle fait des prières de nuit, si elle a des rattrapages, elle les fait, et puis elle met l'intention de jeûner. Et c'est bien de prendre la sahur avant le fajr. Donc avec l'application, on peut mettre un qiyam. Donc vous avez le choix du qiyam qui est sur la version mobile. Et vous pouvez répéter, surtout sur Android en fait, il y a plus de fonctionnalités. On peut faire répéter jusqu'à ce qu'il se réveille. On peut mettre réveille-moi 60 minutes avant le fajr. Et les doigts sont exaucés, Inch'Allah, comme on l'a vu dans le hadith, où l'ange descend sous l'ordre de Dieu. L'ange descend sous l'ordre de Dieu. On ne dit pas que Dieu descend, on a vu l'explication. Attribuer à Dieu le déplacement, c'est du shirk. Mais le hadith veut dire Dieu ordonne à un ange de descendre dans le dernier tiers de la nuit. Et parce que le dernier tiers, c'est tout le temps, selon l'endroit de la terre, il y a tout le temps le tiers de la nuit. Donc, la personne invoque Dieu, c'est l'occasion d'invoquer, et comme on l'a dit, elle espère par cela fortement être exaucée. Prendre le sahur, ça aide à faire le jeûne. Quelque chose de sucré, avec donc quelque chose de donc léger en fait, pas quelque chose de lourd, ça aide à jeûner en fait. Qui permet de ne pas avoir soif, des fruits, des choses comme ça. Ça aide à tenir. Donc c'est parmi la sunna, le sahur, qu'on prend à partir de la deuxième moitié de la nuit. La deuxième moitié, c'est calculé à partir de Maghrib jusqu'au Fajr divisé par deux. Donc voilà. Donc on va passer à la deuxième partie, Inch'Allah. Alors, donc on était dans les points de prononciation. Donc on va faire et puis on récitera ce doigt-là pour la prononciation. Donc dans les points de prononciation, on était les trois types de idgham. Donc à revoir pour ceux qui n'ont pas vu. Donc idram al-mutamathilayn, idram al-mutaqaribayn, idram al-mutajanisayn. Idram al-mutamathilayn, c'est le idram de deux lettres. Donc idram, c'est rentrer une lettre dans une autre et ça devient une seule lettre avec shadda. Donc c'est le idram de deux lettres ayant le même makhraj, point de prononciation, et les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire deux mêmes lettres, deux lemmes qui se suivent. Qul la, ça se prononce, qul la, ça devient une seule lettre avec shadda. Qad dakhalu, ça devient qad dakhalu, qad dakhalu. Idram mutaqaribain, c'est le idram de deux lettres ayant des makhraj, point de prononciation proches, tels que del et sin, ou zel et ta. Ils sont proches. Qad sami'a, on prononce qassami'a, qassami'a. Et idram, ces deux lettres qui ont le même makhraj, c'est-à-dire le makhraj général, le point de prononciation général, mais avec des caractéristiques différentes, comme le lam et le ra. Qul Rabbi, on lit Qul Rabbi. Wa Qul Rabbi a'oudhu bika min hamazati shayatin wa a'oudhu bika Rabbi an yahdurun. Donc c'est une des invocations qu'on cite pour la préservation des djinns le matin et le soir. Il y a aussi donc le tafrim et le tarqiq. Tarqiq, l'emphatisation et la douceur. Donc l'emphatisation, ça va donner un son grave. Le tafrim concerne les lettres qui sont graves au moment de leur émission, c'est-à-dire celles qui sont prononcées avec emphase et en remplissant la cavité buccale. Entre dans cette catégorie les lettres de l'istila, khossa dhartin qidh, on a vu. Kha, sa, on dit pas khe, on dit kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Au contraire des lettres de l'estifel qui obéissent au tarqiq, entre aussi dans la catégorie des lettres graves celles de l'inhiraf, divergence. Dans certains cas, l'am et ra. Donc, elles obéissent au tafrim et au tarqiq suivant le cas qui se présente. Donc, on va voir. Le ra obéit au tafrim dans les situations suivantes. Lorsqu'elle est vocalisée en fatha ou dhamma. Ra, rou. Ra, rou. Et lorsqu'elle est sakina et précédée d'une lettre avec fatha ou dhamma. Donc elle est sakina, mais avant elle, il y a une lettre avec fatha ou dhamma, comme murdi'ah, murdi'ah. Al-arsh, al-arsh. Avant, il y a une lettre avec fatha, al-arsh. Elle est sakina, précédée d'une lettre Sakina, Sofia, précédée d'une lettre avec fatha ou dhamma. Exemple, Al-Asr, Al-Asr, Ash-Shukr, Ash-Shukr. Le ra, Al-Asr, Sad avec Sukun, donc on regarde la lettre d'avant encore. Donc il y a une fatha, al-asr. Donc le ra il est emphatique. Ash-shukr. Le ka, il y a un sukun, donc on regarde la lettre avant. Sha, il y a quoi? Dhamma, chou. Ash-shukr. Sauf, il y a exception, il y a une autre règle. Sakina, donc c'est-à-dire le ra, il est avec sukun, précédé d'une lettre avec kasr arid, kasr non originel. Donc elle est sakina et avant elle il y a une lettre avec kasr qui n'est pas originelle. Comme la manière tada, la manière tada, la manière tada, la manière tada. Donc le kasr ici il n'est pas originel. C'est pour la liaison on a rajouté une kasra. Donc alors c'est la manière tada. Sakina précédée d'une lettre. Donc sakina précédée d'une lettre avec kasra et suivie d'une lettre de isti'la. Avec fatha ou dhamma. Comme les lettres de l'istila, elles sont emphatisées. Donc c'est ce qui pousse à faire le ra emphatique. C'est la lettre qui suit en fait. Qirtas, qirtas. Parce qu'il y a le ta après. Qirtas. La bil mir sad. La bil mir sad. Et sixième cas, optionnel. On peut faire tarqiq ou tafkhim. Sakina précédée d'une lettre avec kasra et suivie d'une lettre de l'istila avec kasra. Firqin, on peut dire firqin ou firqin. Firqin ou firqin. Parce qu'il y a une lettre de l'istila qui pousserait à faire l'emphase, mais comme il y a une kasra, ça facilite aussi le contraire de l'emphase, la douceur. Voilà les cas en fait. Donc c'est à retenir, hein. Donc déjà avec fatha ou dhamma, elle est emphatique. Ou si la lettre avant elle, elle est avec fatha ou dhamma. Ou si la lettre, elle est précédée par une lettre sakina sans le ya, parce que le ya ça va venir en bas. Autre que cela, il y a une lettre avant avec sukun, mais la lettre d'avant, celle qui est d'avant, elle a une dhamma ou une fatha, comme al-asr, al-shukr. Précédée d'une lettre avec kasr, arif, kasr non originel. La manière tada, la manière tada. Sakina précédée d'une lettre avec kasra et suivie d'une lettre avec de l'isti'la. Donc l'aide de celle-là, il faut connaître aussi. Kha, sa, etc. Khossa, dantin, qivu. Comme donc qirtas, la bil mir sad. Et optionnel quand la lettre d'après, c'est une lettre de l'istila, mais elle a une kasra. Firq ou firq. Maintenant, tarqiq. Le ra obéit au tarqiq dans les situations suivantes. Selon qu'elle est vocalisée en kasra, ri, on va dire ri, on dit pas rou. Donc en fait c'est facilité naturellement. Ri. Sakina précédée d'une lettre avec kasra. Exemple, Fir'aoun, Fir'aoun. Sakina précédée de la lettre ya, de prolongation non. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on l'a dit, sauf le ya en haut. Parce que le ya, s'il y a avant elle le ya, ça y est. Ça va dans. Elle est dans le tarqiq. Khayr, khayr. Khabir, Khabir. Sakina précédée d'une lettre sakina autre que ya, précédée d'une lettre avec kasra. Exemple, As-sihr. As-sihr. Parce que l'autre cas qu'on a vu en haut, c'est la lettre qui précède, elle est avec Dhamma ou Fatha. Donc, précédée d'une lettre Sakina, donc on la compte pas, la Sakina, autre que le Ya. Et avant, il y a une Kasra. As-sihr. Voilà, donc il faut réécouter, hein. Donc on a besoin de réécouter plusieurs fois. Donc voilà. On finit quand même cette partie pour aujourd'hui pour le tajwid. C'est le lem, comme on a parlé du lem et de ra. Les règles se rapportant à la lettre lem. Le lem n'est mufakham que dans le nom de Allah. Allah. Donc on ne dit pas Allah, on dit Allah. En effet, il obéit au tafkhim quand le nom de Allah est précédé d'une lettre vocalisée en dhamma ou fatha. Ou bien encore quand le nom de Allah est au début de la phrase. Dans les autres cas, le lem obéit au tarqiq. Ainsi, le lem du nom de Allah obéit au tarqiq quand il est précédé d'une kasra. Quand il y a une kasra avant, on va dire Bismillah, on ne dit pas Bismillah, parce que la kasra facilite le tarqiq. Bismillah, Bismillah. Mais quand au début du mot, comme Allahu la ilaha illahu, Allahu. Et quand il y a donc on peut appliquer le talqiq d'une imala kubra dans certaines récitations. Donc ça, c'est de certaines récitations. Donc il y a la récitation de Hafn, narallaha, narallaha. Il y en a certaines récitations, ils vont dire nara. Donc voilà. On peut aussi appliquer le tarqiq d'une imala kubra dans certaines récitations. Imala, donc, ils vont dire au lieu de nara, nara. Donc, quand le lem, il est dans le nom de Allah, quand c'est au début du mot, le nom Allah, c'est tafkhim. Et quand il y a une kasra avant, Bismillah, c'est tarqiq. S'il y a une fatha avant, une dhamma, c'est tafkhim. Voilà. Donc, donc on va lire. On a dit le doua là, et après, donc on va donc aussi continuer sur ça. On va donc déjà continuer sur ça. Donc on est arrivé donc à langue arabe niveau 1. Donc s'il y a un tajwid langue arabe quand même, au djim, donc on est arrivé au djim normalement. Donc on a vu le tha. Et là on va voir plus facilement directement l'écriture sur le support. Et les points justement, comme le djim, ici il y a un point, on a dit c'est une parmi les bonnes innovations. Contrairement toujours à la secte wahhabite qui disent bid'a, 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 en visant mauvaise innovation sur tout ce qui ne leur plaît pas. Et langue arabe, par exemple, ici utilisé dans le livre du Coran, dans le Mus'haf, ces points-là sont utilisés. Donc cette innovation, elle est utilisée. Donc dans l'islam, comme disent les quatre écoles, comme Chef et d'autres, on peut utiliser les bonnes innovations du moment qu'elles ne contredisent pas l'enseignement d'origine. Donc il y a beaucoup de preuves là-dessus. Donc Jim. Donc déjà on dit Ja, Ju, Ji, Ij. Donc on ne dit pas Je, on dit Jimon. Donc vous voyez. Voilà, donc Jimon, Ja, donc la fatha on l'a dit, Ja, allez au milieu, le point en fait, voilà un point, Ja, on peut dire Ju, et donc ça c'est au milieu, et à la fin donc. Jadou dit par exemple Ursum da'iratan donc on cercle dessine en fait un cercle autour de la lettre Jim Jamalon donc Jamalon donc voilà donc vous voyez Dajajaton Dajajaton Poule, Jamalon dromadaire, Jabalon montagne, Jaddaton grand-mère, Ajinon pâte, Hajjon pèlerinage, Aljazairu l'Algérie, Jouron donc voilà, c'est la prolongation. Jouron. Fin. Darajon. Escalier. Junoudon. Donc soldat au pluriel. Hajarun. Pierre. Hijabun. Le voile. Donc là, c'est la prolongation. Donc prolongation avec le alif. On a vu ici avec le ya, Ajinon, Jama'aton, groupe, Jaziraton, île. Oktub harf al-jimi hasab al-amthilati al-taliya. Écris la lettre jim selon les exemples suivants. Donc on l'a déjà écrit. On peut faire la prolongation pour montrer ja ja c'est pour prolonger ja ju ji donc ji le point. Ok, c'est pas facile de prendre ici. J. Donc ça c'est Ja, Ju, J. Donc à la fin, c'est pour à la fin. Donc faites tout avec le stylo. Donc vous voyez, pour montrer un peu. Tout seul, alors comme le ha, mais et le ha, le ha, le ja, le ha, pas de point, le ha, un point en haut, le ja, un point en bas, et ça, c'est l'innovation qui a été innovée après les compagnons, et entre au milieu, on l'a vu comme ça. Donc de droite à gauche, on écrit. Donc pour revenir. Donc voilà, on a fini pour le jim. Pour. Donc on revient. Donc on revient pour le doua. Donc qui est le suivant, on peut le dire. Et là, comme ça, on pourra avoir quelques prononciations, quelques règles. On renouvelle la bonne intention. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghafur ya Tawwab, ya Fattah ya Razzaq, ya Wasi'u ya Mu'in, ya Basitu ya Mubdi'u ya Wahhab, ya Matin wa ya Hafiz, ya Waliyu ya Kafi ya Hasibu ya Arhamar Rahimin. يا ذا المن ويا ذا الفضل ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام ويا من تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء ويا من عندك أم الكتاب بحق أسمائك الحسنى وآياتك العظمى وبحق اسمك العظيم الأعظم وبالتجلي في ليلة النصف من شعبان المكرم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا. Donc صلي ici, faire attention, on ne prolonge pas, on fait juste doublement. صلي على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمد رسولك ونبيك الأكرم صلاة كاملة دائمة تكتبنا بها عندك في هذه الليلة المباركة مغفورين لهم مسعودين معمرين بالخير مرزوقين موفقين للأذكار والطاعات والخيرات والحسنات ومستغنين بفضلك في الدارين عمن سواك. وصلي على سيدنا محمد صلاة تكتبنا بها في هذه الدنيا من السعداء تكتبنا بها في هذه الليلة من السعداء والصالحين وترزقنا بها في الدارين إيمانا كاملا وكمال اليقين بحق سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ومحبوب رب العالمين وتكشف بها عنا البليات والآفات والعاهات الواردة بإرادتك هذه السنة لتصيب بها من تشاء من عبادك إنك مجيب الدعوات وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc sinon la personne elle dit les invocations qu'elle connaît. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Donc dire ça c'est déjà c'est bien, les invocations de protection les dire. Donc on y reviendra. Donc les invocations. De protection. Il y a. Donc sont très importants. Et c'est l'occasion de dire aussi le soir. Donc on y reviendra, Inch'Allah. Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. إن ربي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Donc بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Donc trois fois. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي. Trois fois aussi. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc cette fois. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Trois fois. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Trois fois. Donc ça vous protège, inshallah, aussi contre les nuisances des djinns, les mauvais œils, etc. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Donc trois fois aussi. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آية الكرسي. Donc on a fait l'autre fois. Donc on reviendra pour les invocations, on les reprononcera. Et celle-là, on l'a dit à dire. Pendant cette nuit, le prophète il disait souvent cette invocation. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Donc on reviendra inshallah sur les invocations. Donc révisez bien les cours et n'oubliez pas le dimanche, inshallah, celui qui peut il jeûne, celui qui a un rattrapage il rattrape et il fait les invocations à la rupture. Donc on espère donc fortement qu'il soit exaucé. L'invocation du jeûneur qui rompt le jeûne, et c'est bien de donner à rompre avec la bonne intention. On a une grande récompense. Bien sûr, en rappelant que le jeûneur qui fait un jeûne obligatoire, c'est supérieur au fait de donner à manger, car donner à manger, rompre au jeûneur, c'est surrogatoire. Et l'obligatoire, il est supérieur au surrogatoire. Donc, il a une grande récompense qui ressemble de certains points de vue à celle du jeûneur, mais pas totalement. Donc, car celui qui fait l'obligation est supérieur, son acte, à celui qui fait le surrogatoire, s'il s'agit d'un jeûne obligatoire, que ce soit rattrapage ou jeûne de Ramadan. Voilà. Donc on reviendra sur ce sujet. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursaleen. Wa khatamin Nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahirin. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Wa shifa'an min kulli da'. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم.